Voilà, bah écoutez, je vous invite à ouvrir vos Bibles à 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, où nous allons continuer le message démarré la semaine dernière. Et finalement, j'étais obligé de conclure que c'était vraiment la suite. Je ne l'ai pas annoncé tel quel dimanche dernier, mais c'était vraiment aujourd'hui la suite de la semaine dernière. Donc je vais faire une petite révision. Et pour le faire, on va lire ensemble, enfin moi je vais lire, vous pouvez suivre dans vos Bibles, les versets 6, 1 Timothée 4, 6 à 16. Et donc c'est la deuxième partie d'un message intitulé « Le portrait d'un bon ministre de Jésus-Christ ». D'accord ? Donc 1 Timothée à partir du verset, chapitre 4 à partir du verset 6. Paul écrit à Timothée et lui dit « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ ». Nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et bien que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors la clé de ce texte se trouve au verset 6. Il dit « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ ». Et là, ça vient vraiment le thème. Ce texte que nous venons de lire nous décrit le portrait d'un bon ministre de Jésus-Christ. Le mot « ministre », « diakonos », veut en fait dire « serviteur ». Alors il y a le mot utilisé par exemple pour les diacres et les diaconesses. Disons un mot qui parle vraiment d'un office. Ici, c'est vraiment le mot pour décrire un pasteur d'une église, d'accord? Le jeune Timothée a été laissé à Éphèse pour qu'il prenne soin de l'église, verset 3, chapitre 3, verset 15. Et donc, ici, Paul lui dit, sois un bon serviteur de Jésus-Christ, sois un bon pasteur. Bon, ceci dit, on peut être serviteur sans pour autant être pasteur. Donc, je crois qu'il s'applique vraiment à tout le monde, bien que spécifiquement à ce jeune pasteur. Il doit être un excellent, excellent pasteur. Le mot bon veut dire excellent. Donc, ce texte nous explique quelles sont les exigences pour être un bon ministre de Jésus-Christ. Et en fait, la semaine dernière, j'ai noté que 6 traits, mais en fait, il y en a 12. D'accord ? Il y a 12 traits, puisque je vais continuer le message ce matin. D'accord ? Alors, juste pour réviser rapidement, si vous n'étiez pas là dimanche dernier, les 6 premiers traits marquants d'un bon ministre de Jésus-Christ, premièrement, il expose l'erreur. Il expose l'erreur. C'est ce qu'on a vu au verset 6, en exposant ces choses aux frères. Et l'erreur a été mentionnée dans les versets 1 à 5. L'erreur, c'est une erreur influencée par des esprits séducteurs, verset 1, des doctrines de démons, verset 1, et par des hommes cautérisés, des faux prophètes qui préconisaient un ascétisme draconien comme moyen de parvenir au salut. Deuxièmement, un bon ministre se nourrit de la parole. Verset 6. Sois un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Donc il doit être nourri de la parole de la foi, c'est le contenu général de la parole de Dieu, ainsi que la bonne doctrine en contradiction quelque part, ou en, disons, en juxtaposition avec le verset 1, les doctrines de démons. Il y a des mauvaises doctrines, celles de démons, et il y a des doctrines juste bibliques, celles qui sont de Dieu, et le bon ministre doit être nourri de la bonne doctrine qui est celle de Dieu. Numéro 3. Un bon ministre repousse l'enseignement douteux. Verset 7, repousse les contes profanes de vieilles femmes. Alors ici, il est question de fables qui sont non historiques et dont fausses, vides de vérité et mondaines. Et la phrase « vieille femme », ce n'est pas quelque chose de dénigrant, c'est en fait une figure de rhétorique qui décrit le fait qu'avec l'âge, on devient de plus en plus crédule. On gobe plus facilement ce qu'on nous dit. Et des fois, je me dis qu'à mon âge, est-ce que ça va bientôt m'arriver, d'accord? Alors voilà, c'est simplement ça, repousse l'enseignement douteux, ne gobe pas tout. Quatre, un bon ministre de Jésus-Christ. Quatrièmement, exerce la piété. C'est ce qu'il dit au verset 8, exerce-toi à la piété. Et le mot, c'est le mot gymnase en grec, de faire de la gymnastique. Et donc, c'est un exercice. Et ici, l'idée, c'est vraiment une course de longue haleine. Les jeunes, souvent, sont très zélés. Ils aiment bien aller très vite et très zélés, mais ensuite, ils perdent de l'élan. C'est souvent la jeunesse, et on sait qu'il parle d'un jeune homme au verset 12. Il dit, non, toi, tu es peut-être jeune, mais c'est une course de longue haleine. Donc, vas-y, mollo, d'accord? Vas-y, mollo. Exerce-toi à la piété. La piété, c'est simplement un culte zélé que j'offre à Dieu en pensée, en parole, en action. Donc c'est mon zèle, c'est ce que j'aime offrir à Dieu en tant qu'homme de Dieu. Cinquième trait d'un bon ministre de Jésus-Christ, il travaille dur. Verset 10, nous travaillons en effet et nous combattons. Et le premier, c'est littéralement, je travaille jusqu'à épuisement. Et le deuxième, c'est le mot pour combattre. Donc le ministère, c'est pas des vacances. Moi, je me rappelle une fois, quelqu'un m'a dit, il y a des années en arrière, mais c'est super d'être pasteur, vous travaillez qu'une heure par semaine. Ils ont dit, ben voilà, dimanche matin, c'est vrai que je me présente pendant une heure ici. Alors, ils disent, c'est super, c'est vraiment génial. Alors, c'est pas tout à fait ça, d'accord? On travaille au moins 2 heures par semaine. Non, un petit peu plus que ça quand même, d'accord? Non, c'est un travail jusqu'à épuisement. Nous luttons, nous combattons, nous agonisons, par exemple, nous agonisons avec les jeunes quand on fait du camping. Non, je blague, d'accord? Non, c'était super. D'accord, donc on travaille dur. Sixième trait d'un bon ministre, il enseigne avec autorité. Verset 11, déclare ces choses et enseigne-les. Bien sûr, il y a un temps pour enseigner. Donc enseigner, ça veut dire quoi? C'est d'expliquer avec des pour et des contre, c'est avec des argumentations. Déclarer, c'est simplement déclarer. On dit la vérité sans devoir la prouver, d'accord? On l'explique, on la donne. Et il y a un temps pour simplement enseigner avec autorité. Bien sûr, on doit pouvoir répondre aux questions qu'on nous pose, mais la parole de Dieu est elle-même autoritaire. Donc, le jeune pasteur ou n'importe quel pasteur qui veut prêcher avec de l'autorité doit toujours se référer à la parole de Dieu, car l'homme n'a aucune autorité en lui-même, mais elle vient de la parole de Dieu. Alors voilà ce qu'on a vu dimanche dernier. Et on continue ce matin. Encore 6 autres descriptions. Numéro 7. Un bon ministre de Jésus-Christ est un modèle de droiture. Un modèle de droiture. Verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Que personne ne méprise ta jeunesse. Donc on apprend déjà que Timothée était jeune. Et il dit que personne, cela implique que la nature des choses, c'est justement, écoutez bien, de mépriser ou moins de ne pas donner crédit à un jeune. Et alors un jeune à l'époque, c'était jusqu'à 40 ans, d'accord? Ça c'était environ un jeune, donc moins de 40 ans, c'était quelqu'un de jeune. Et littéralement, ne méprisez pas. Un des problèmes avec Timothée était sa jeunesse. Alors, c'est quand même intéressant qu'on parle de lui en tant que jeune. Ça faisait déjà plus de 15 ans qu'il était collègue de Paul. Et comme je le disais, le mot jeune décrit quelqu'un qui était en âge militaire, qui va jusqu'à 40 ans. Alors, c'est vrai qu'il faut dire que dans l'histoire, souvent, dans les églises, on a lié le leadership avec l'âge de la personne. Comme quoi, on a toujours l'impression qu'il faut être âgé pour être mature et pour mener l'Église. Alors, dans le mot, c'est pas tout à fait faux que l'âge souvent apporte la maturité, mais c'est intéressant, regardez le verset 1 du chapitre 5, juste à côté, ça on va le voir dimanche prochain, « Ne réprimande pas rudement un vieillard. Donc on peut tout à fait être vieux et mériter réprimande. Donc la vieillesse en elle-même ne garantit pas la droiture. Vous voyez ce que je suis en train de dire ? Et de la même manière que tous les jeunes ne sont pas nécessairement mauvais, mais il y a des jeunes qui sont vraiment droits, et même plus droits qu'il y a que certains vieux. Donc c'est ce qu'on est en train de dire ici. Précisément dans notre texte ce matin, Paul dit que le leadership dans une église n'est pas uniquement une question d'âge, mais de maturité. On peut être jeune, moins de 40 ans, et être mature, être pasteur en fait. Et les critiques des jeunes doivent être tues. Comment ? Par la maturité du jeune. Il y a une tendance rapide à critiquer un jeune. Mais sa vie doit être comme un bouclier contre la critique. Donc, ce texte met la barre où Dieu veut qu'elle soit mise pour un jeune dans l'Église qui veut être utile au Seigneur. Dans 2 Timothée 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Tu vois, Timothée, tu es jeune, mais sois un homme droit. Alors c'est intéressant, je trouve, l'ordre. Que personne ne méprise ta jeunesse. C'est comme il dit à Timothée, « Timothée, personne dans l'Église doit mépriser ta jeunesse. » Alors Timothée répond comment ? « Ouais, mais attends, mais c'est pas à moi. » C'est-à-dire que tu es en train de me donner un ordre à moi, mais par rapport à eux, c'est eux qui ne doivent pas me mépriser. Ce qu'il est en train de dire, c'est « Personne ne te méprisera, Timothée, si ta vie est en ordre. » Ce sera un bouclier, ça va rebondir. Et comme Barclay le dit, nous devons vivre, si nous sommes jeunes, d'une telle manière que tous les hommes voient que les accusations apportées sont fausses. Pas mal ça, non ? Vraiment super. Alors il dit, que personne ne méprise cette jeunesse, mais sois un modèle. Le mot topos veut dire modèle, c'est le mot tampon. Quand vous allez poster une lettre à la poste, qu'est-ce qui se passe ? Vous donnez la lettre, elle met le timbre et ensuite elle prend un tampon. Paf, paf ! Vous avez remarqué ça, non ? Tic, tic, il y a ce bruit poste, tic, tic, on l'entend bien, hein ? Tout le monde l'entend bien, d'accord ? Eh bien, cette marque laissée sur le timbre est la représentation exacte de ce qui est sur le tampon. Ça, c'est l'idée ici. Dans Actes 7, 44, il dit « Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. » Donc, Moïse a reçu de Dieu le modèle pour le tabernacle et il a construit le tabernacle exactement de la même manière que le modèle qu'il a reçu de Dieu. Et ça, c'est l'idée ici. L'exacte représentation du modèle. Alors Dieu détermine le modèle, ce sont les exigences que Dieu donne à Timothée ici, et Timothée doit être la représentation exacte du modèle donné par Dieu. Alors, quel est le modèle donné par Dieu ? Alors, tenez-vous bien. En fait, on peut dire que le modèle réel, ultime, c'est Jésus-Christ. Parce que lui était l'homme parfait, quelque part. Alors, bien sûr, nous, on ne va jamais atteindre cette perfection, mais c'est le modèle. C'est le modèle. Ça, c'est à quoi, quelque part, on aspire. Dans 1 Jean 2, 6... Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même, parlant de Jésus-Christ. Donc, notre objectif dans la vie, ayant été transformé dans notre cœur par Jésus-Christ, ayant été nous tamponné par sa sainteté quelque part, toute notre vie de sanctification, ça va être de plus en plus être comme lui est, comme Christ est. Et je trouve remarquable ce petit verset dans 1 Corinthiens 11, 1 qui dit quoi ? Paul dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Donc Timothée, il devait être un modèle de Christ sur qui les autres dans l'Église pouvaient calquer leur vie. Alors ça met une sacrée barre haute et une sacrée pression sur les ministres de Jésus-Christ. Ils doivent pouvoir calquer leur vie, donc l'Église doit pouvoir calquer leur vie sur celle du ministre. Du bon ministre de Jésus-Christ. Et c'était pour qui ? que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Ça, c'est, je trouve intéressant aussi. Hein. Écoutez, chaque mot, on peut l'analyser. Il y a plein de messages ici. Mais c'est pour les chrétiens ici. C'est pour les chrétiens. La vie du jeune ministre devait être un modèle pour l'Église. Alors, bien sûr, ça va aussi avoir un effet sur le monde extérieur. Ça va être une lumière qui brille. Et il y en a qui vont peut-être même donner leur vie grâce à cette lumière qui brille, donner leur vie au Seigneur. Mais le but premier, c'est pour l'Église. C'est ce qu'il dit aussi au verset 12. Alors, en quoi devait-il donc être ce modèle ? Ben, c'est décrit, c'est très clair. Premièrement, en parole. Ça commence dur. La langue. La bouche, ce qu'on dit. Alors de nouveau, là, ça mérite tout un message, mais je n'ai pas le temps. Juste quelques petits versets pour nous rappeler. Premièrement, il y a beaucoup d'aspects. Écoutez, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Comment est-ce qu'il y a des réactions ? Comment est-ce qu'on réagit avec notre bouche, notre langue ? Éphésiens 4:4 est très clair par rapport à un autre problème de la bouche. Il dit, verset 29, qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 4 du chapitre 5 d'Éphésiens, qu'on n'entend ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques. Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Vous savez, parfois, dans un moment, on peut laisser sortir des choses qui, parfois, peuvent être choquantes. Et on devrait se poser la question, est-ce que Jésus aurait dit ça ? Est-ce que Jésus se serait permis de dire ce que je viens de dire ? Ça, c'est peut-être une bonne manière de penser à ce qu'on dit. Et là, c'est ce qu'il dit. Il dit... Il faut être un modèle en parole. Ta bouche doit être contrôlée. Deuxièmement, il devait être un modèle en conduite. En conduite. Alors, c'est quoi en conduite ? Eh bien, c'est tout simple, quelque part. Enfin, c'est tout simple, c'est très compliqué. 1 Pierre 1,15 nous dit, « Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Alors, c'est très vague, mais ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire qu'en vivant ta vie tous les jours, pose-toi la question, est-ce que je vis de manière sainte ? Est-ce que ma vie reflète celle de Jésus-Christ ? Moi, je crois qu'il y a une manière vraiment simple déjà d'évaluer si on se porte relativement bien ou pas en ce domaine-là, il faut se référer aux 10 commandements. Dans Exode 20, tu n'auras pas d'autre Dieu devant toi, tu ne feras point d'image taillée, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain et tu ne convoiteras point. Déjà, on pourrait déjà commencer là. Il doit être en modèle, en parole, en conduite, troisièmement en amour. Et là, c'est le mot agapé. On est encore au verset 12. Hein. Agapé. C'est un amour de choix. Ce n'est pas un amour d'émotion. Et souvent, aujourd'hui, on est très émotionnel. On entend souvent dire « Ah, j'aime quelqu'un !» Finalement, cette personne connaît cette personne depuis très peu et c'est tout émotionnel. L'amour d'amitié ou d'émotionnel. Mais ici, c'est l'amour agapé. C'est cet amour avec lequel Dieu nous a aimés dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé agapé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est l'amour qui sacrifie pour un autre, qu'il le mérite ou pas. Ça n'a rien d'émotionnel. Quand on doit sacrifier quelque chose pour aimer quelqu'un, ce n'est pas toujours « waouh ». Hein ? Quand on sacrifie, c'est dur parfois. Mais c'est ça le vrai amour. Et je trouve très intéressant Jean 15, 13 qui dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » C'est émotionnel, ça ? De mourir quelqu'un, est-ce que c'est un amour émotionnel ? Non, c'est un amour de choix et de décision. Et ça, c'est le genre d'amour que Timothée devait refléter. Quatre, il devait être un modèle de foi. Et là, le mot est probablement utilisé comme étant l'idée de fidélité, un engagement sans réserve. Dans 2 Timothée 4, 7, il est dit « J'ai combattu le bon combat », Paul dit « J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». C'est l'idée de dire « Voilà, moi je rentre dans le ministère, ce jeune homme rentre dans le ministère, mais moi c'est pour la longue haleine, c'est pas un sprint ». Je ne vais pas démissionner dans 3 ans, même si c'est dur. Non, moi, je maintiens le cap. J'y vais pour longtemps. C'est comme le mariage. On rentre dedans pour la vie. Ça, c'est le but. C'est le but biblique. Ben, le ministère, c'est pareil quelque part. Je suis appelé et j'y vais pour la longue haleine. Je veux être un modèle de foi. Et Paul dit, ben voilà, j'ai combattu, j'ai demeuré jusqu'à la fin. Ça, je pense, c'est l'intention. Quand on rentre dans le ministère, c'est vraiment l'intention. La longue haleine. Et 5, il doit être un modèle de pureté. Pureté. Je pense qu'ici, c'est la pureté sexuelle qui est en question. C'est intéressant, dans 1 Timothée 5, verset 1, ne réprimande pas rudement les vieillards, mais exhorte-les comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, et celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. De nouveau l'idée ici, la pureté, probablement il se fait référence d'une pureté sexuelle. Dans 2 Timothée 2, 22, l'idée sexuelle ressort, il dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, etc. » Et aussi dans 1 Timothée 3, vis-à-vis d'un ancien, qu'est-ce qu'il dit au verset 2 ? Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. C'est-à-dire qu'il aime une femme, la sienne. D'accord ? Et donc, il doit être un modèle en pureté. Donc, le sixième trait, il doit être un modèle de droiture, comme on l'a vu ici, un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Et ça, c'est que le verset 12. On continue ? La barre est haute, vous ne trouvez pas ? Ouais, elle est haute. Il ne faut pas qu'on la baisse. C'est la barre de Dieu. On continue. 8. Il est foncièrement biblique. Un bon ministre de Jésus-Christ est foncièrement biblique. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Alors le contexte, de nouveau, je reviens toujours à ce contexte parce que c'est important. Chapitre 3, verset 15. « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Donc, le contexte, c'est l'église. Cet homme, ce jeune ministre de Jésus-Christ, le bon ministre de Jésus-Christ, doit être, dans le contexte de son église et bien sûr de sa vie personnelle aussi, toujours branché Bible. C'est la clé. La Bible, la parole de Dieu. Jusqu'à ce que je vienne, Paul avait l'intention, il était parti, il revenait, il avait envie de revenir, et il dit, applique-toi. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir, écoute, Timothée, il faut avoir une attention totale et assidue. Ne dévie ni à gauche, ni à droite, reste biblique. Et il y a l'article ici, la lecture, la lecture. Alors, c'était l'habitude du jour du texte, du culte public, de lire la Bible. Eh bien, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il dit ici, jusqu'à que je vienne, applique-toi à la lecture de la Bible ? Alors, nous, on le comprend moins aujourd'hui, peut-être, parce que peut-être vous avez tous vos iPods et vos téléphones avec des Bibles intégrées aujourd'hui. Alors, tout le monde a de multiples Bibles, tout ce que vous voulez aujourd'hui. Mais à l'époque, non, ce n'était pas du tout le cas. Dans les synagogues, à l'époque, avant même que l'Église soit, il n'y avait pas des copies pour tout le monde. C'était des grands rouleaux écrits à la main. Il y avait une copie qui était lue pour tout le monde. Et si tu étais très riche, peut-être tu pouvais te procurer une copie, mais pour la plupart des gens, c'était impossible. Et même au Moyen-Âge, dans les églises, quand il y avait des Bibles, parfois ils les enchaînaient au devant de l'église pour que les gens puissent aller la consulter, mais qu'ils ne la volaient pas, parce que c'était un outil précieux, un livre précieux. Et donc les gens n'amenaient pas tous leurs rouleaux manuscrits à la synagogue. C'était pas possible. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'est que les gens venaient et ils ouvraient la Torah, ou ils ouvraient les prophètes, et plus tard, ils ouvraient les écrits des apôtres, et ils lisaient pendant le culte les écrits. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire. On a toujours un moment dans le culte où on lit la parole de Dieu, sans commentaire, et ensuite, on prie. Et donc, c'est quelque chose qui se faisait régulièrement à l'époque. C'est vrai que même dans Acte 15, on le voit, Acte 15, 1, il dit « Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous... » Non, c'est pas ça du tout alors. 21, excusez-moi. « Car depuis bien des générations, Moïse est dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. » Vous voyez, on lisait Moïse, on lisait la Torah dans la synagogue. Donc, il devait s'appliquer à lire la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il voulait que l'Église, cette nouvelle Église à Éphèse, soit foncièrement biblique. Et donc, il faut toujours amener la parole de Dieu. Deuxièmement, à l'exhortation. L'exhortation a comme but l'application du texte. Il y a trois composantes au mot exhortation. Lorsqu'on exhorte quelqu'un, ou bien on l'avertit contre l'erreur, ou bien on lui donne des conseils, ou bien des encouragements. D'accord ? Ça, c'est l'idée de l'exhortation. Avertissement, conseil ou encouragement, bénédiction. Et enseignement, troisième chose auquel il devait s'appliquer dans ce domaine, l'enseignement. Et là, le but de l'enseignement, c'est vraiment d'appliquer le texte, l'explication du texte. L'exhortation, c'est l'application. L'enseignement, c'est l'explication du texte. Il explique ce que le texte veut dire. Il y a tout simplement des faits à comprendre, des faits historiques, des faits doctrinaux, peut-être des faits grammaticaux qu'il faut expliquer pour mieux comprendre le texte. Intéressant que dans 2 Timothée 4, 2, un ancien doit être capable d'enseigner. Et ça, c'était vraiment la priorité absolue. Je dirais même aussi pour Pierre, je trouve tellement beau ces versets, ça, je les aime vraiment de tout mon cœur. 1 Pierre 2, il dit, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, verset 23, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Il dit au verset 1 du chapitre 2, « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme les enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez dans le salut. » Voyez-vous, nous croissons en buvant la parole vivante et permanente de Dieu. Et donc, nous croissons ainsi. Et cette sanctification, cet aspect progressif de notre vie, elle se fait de nouveau par la parole de Dieu. Jean 17, 17, « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est vérité. » Mes amis, écoutez bien. C'est quoi la vérité ? Elle est là. Ta parole est vérité. Vous voulez savoir comment vivre la vie ? Vous voulez comprendre quelque chose sur Dieu ? Vous voulez comprendre quelque chose sur le travail ? Comment bien travailler ? Comment avoir une famille, le mariage ? Comment élever une famille, les enfants ? Tout est là. C'est le manuel que Dieu nous a donné pour vivre notre vie. C'est incroyable. C'est le plus grand privilège qu'on peut avoir en tant qu'humain. La parole de la vérité pour nous aider à grandir dans notre foi. Tout est là. C'est pour ça que Paul dit à ce jeune pasteur, jusqu'à que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. 2 Timothée 3, 16 nous le dit clairement, toute écriture est inspirée de Dieu. Ça, c'est inspiré de Dieu, c'est soufflé. Dieu nous a donné sa parole, elle est là, soufflée par Dieu. Et le texte nous dit qu'elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, donc mature et propre à toute bonne œuvre. Tu veux être mature ? Tu veux savoir comment vivre ta vie bien ? Là. Là. Dieu nous a donné toute sa révélation dans un livre. C'est quand même génial, vous ne trouvez pas ? Il n'y a pas besoin de se casser la tête, mes amis. Tout est là. Et ça c'est les morceaux de ma Bible qui tombent. Mais ce n'est pas les morceaux écrits, hein. C'est juste la couverture. Parce qu'elle commence à être très usée. Et par la grâce de Dieu, j'espère que la vôtre aussi, de plus en plus, vous l'utilisez. Elle commence à tomber en pièces. Et il faut la remplacer un jour. C'est intéressant. Juste un martyr était un apologète du 2e siècle après Jésus-Christ. Et lui a décrit comment ressemblait un culte à son époque ? Très intéressant, écoutez ce qu'il dit. Ça date du 2e siècle. Le jour qu'on appelle le dimanche se tient dans une rencontre au domicile d'un citadin ou d'un campagnard, lors de laquelle les mémoires des apôtres ou des écrits des prophètes sont lus pendant tout le temps dont on dispose. Vous avez entendu ? Il lisait pendant tout le temps dont on dispose. Lorsque le lecteur a terminé, le président nous exhorte et nous invite dans un discours à appliquer ces nobles vérités. Ensuite, nous nous levons tous ensemble et prions. Puis, tel que mentionné antérieur, au terme de la prière, on nous apporte le pain, du vin et de l'eau, et le président offre à son tour des prières et des actions de grâce auxquelles l'Assemblée donne son assentiment par un Amen. Alors peut-être un jour on en parlera sur la fréquence de la Sainte Cène. Bibliquement, ce n'est pas stipulé tel quel, donc il y a un choix. Et souvent, il y a beaucoup d'églises encore aujourd'hui qui le font chaque dimanche. Nous, on a choisi de le faire une fois par mois, mais ça, ce sera une autre étude un jour. Ce qu'on est en train de voir, tout simplement, c'est que la parole de Dieu était prépondérante. Et ça, c'est une des raisons aussi que nous, eh bien, nous essayons d'avoir une partie prépondérante, du moins très importante, dans la prédication, la lecture et la prédication de la parole de Dieu, parce que c'est par elle que nous allons grandir. Donc voilà, le portrait d'un bon ministre de Jésus-Christ. Numéro 7, il est un modèle de droiture. Numéro 8, il demeure foncièrement biblique. Numéro 9, il est confirmé dans sa vocation. Il est confirmé dans sa vocation, verset 14. « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Alors ça, c'est intéressant, c'est encore tout un message, d'accord ? Tout simplement, Paul avertit Timothée qu'il ne doit pas négliger le don qui est en lui. Pourquoi ? Eh bien, peut-être, justement, parce que Timothée était dans un moment de difficulté. Et peut-être était-il un petit peu tenté humainement de se dire, mais est-ce que ça, c'est vraiment mon truc, le ministère ? C'est quand même dur. Ça, je ne m'y attendais pas. Hein, quand j'ai été pris dans Acte 16 avec Paul, ben, c'était l'élan avec l'apôtre Paul. Et là, tac, maintenant, après le Paul l'a formé, il le laisse tout seul à Éphèse. Et tout d'un coup, il est submergé, peut-être, par les problèmes, par des critiques, par toutes sortes de choses, ben, des problèmes, on sait qu'il y en avait. En fait, vous savez, l'idée de quitter le ministère est très tentante. Moi, ça fait 23 ans que je suis pasteur, je connais beaucoup de pasteurs, et je peux vraiment dire beaucoup de pasteurs qui ont décidé de quitter le ministère. Pour quelle raison est-ce qu'ils quittent le ministère ? Il y a plein de raisons. Moi, je croyais que la première des raisons, moi, je dirais aujourd'hui que je vois que des gens quittent le ministère pastoral, c'est des péchés sexuels. Parce qu'un péché sexuel au nouveau ministère, ça annule immédiatement cette fonction. Ça, c'est tout à fait évident. Mais je dirais, à un autre niveau, il y a le découragement. Vous savez, quand on est dans une position de leadership dans le monde, ça arrive, dans l'Église, ça arrive aussi, il y aura tôt ou tard des critiques. C'est toujours comme ça. Il y a des critiques qui viennent, et un pasteur peut se sentir très seul, et il peut se sentir en manque d'encouragement et en manque de valorisation. En plus, c'est ça, moi je le vois assez souvent aussi, des difficultés financières. Pas toujours facile pour les petites églises de soutenir leur pasteur, financièrement et correctement, dignement. Et il y a aussi des difficultés familiales, que ce soit au niveau du couple à cause des pressions ou au niveau des enfants. Et parfois, il y en a un peu marre, quoi. Et on voit, moi je le vois, c'est très facile de devenir découragé dans le ministère. Et pour Timothée, c'est exactement ce qui se passait. Le ministère était rude à Éphèse. Premièrement, il était jeune, on l'a appris. Et on apprend aussi que certains méprisaient sa jeunesse. Donc on sait qu'il y a des gens qui disaient, « Timothée, mais toi, notre pasteur, mais t'es 10 fois trop jeune. Ah, nous, on est une église mature. Nous, il nous faut des gens matures. » Mais il était mature, mais il était jeune. Et sa jeunesse était donc sujet de critique. Deuxièmement, on voit dans le chapitre 1 qu'il y avait des faux docteurs. Et aussi au chapitre 4, chapitre 1, chapitre 4, il y avait des faux docteurs dans l'église. Et il devait les taire. Ben, c'est pas facile d'arrêter des faux docteurs. Parce qu'ils ne se font pas arrêter, disons, facilement. On ne tait pas des faux docteurs vocaux ou vocales. Vocaux, facilement. Et ils créaient des dégâts parce qu'il y a des gens qui abandonnaient la foi dans l'Église. Et donc, il était là pour arrêter ces gens. Aussi, au verset chapitre 1 à 18, on sait que le ministère était un combat. Donc, il était en train de se battre. Donc, il était fatigué. On a vu dans le chapitre 3 tout le domaine des femmes. Il y avait apparemment certaines femmes dans l'Église qui cherchaient à usurper aux hommes le rôle de leadership et d'enseignement dans l'Église. Et ça aussi, il devait faire face à ça. Et il devait remettre de l'ordre à ce niveau-là. Pas facile. Pas facile. Et au chapitre 5, parce que Paul va lui dire, on va voir ça la prochaine fois, il devait réprimander des vieillards, des jeunes gens, des femmes âgées et des jeunes. Et en plus, il y avait le problème de veuve. Ça, on va le voir tout au chapitre 5. Comment gérer les gens dans le besoin, dans le réel besoin dans une église. Alors tout d'un coup, Timothée se voit l'homme à tout faire. Il est jeune et il est un petit peu submergé par ses problèmes. Et il se dit, ce serait beaucoup plus simple d'avoir juste un travail normal. Peut-être, il se dit. Alors Paul lui dit, non, Timothée. Ne néglige pas le don qui est en toi. Et le don ici, c'est charismatos. Et c'est justement, il fait référence aux dons spirituels que reçoivent chaque chrétien au moment où ils reçoivent le Saint-Esprit, donc au moment de leur salut. Le Nouveau Testament enseigne que Dieu donne par le biais du Saint-Esprit des dons spirituels à chaque croyant afin que ceux-ci puissent servir l'Église. Il y a trois listes de dons spirituels, on ne va pas les regarder, on n'a pas le temps, mais il y a Romains 12, 1 Corinthiens 12 et 1 Pierre 4. Ce sont les trois listes de dons spirituels qui sont listées dans la Bible. Et ce qu'on apprend, il y a peut-être deux ou trois choses intéressantes à noter. Dans 1 Corinthiens 12, on apprend comment ces dons sont distribués à chacun. Et dans 1 Corinthiens 12, 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, on doit connaître comment ça marche. Deuxièmement, verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et verset 7, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée par l'utilité commune. Donc, il donne des dons pour l'utilité commune, pour aider l'Église. Verset 11, un seul et même esprit opère toutes choses en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons spirituels comme il veut, à qui il veut. Tout chrétien en a au moins un, peut-être plus. Ça, c'est sûr. Et ça, on les reçoit comme cadeau de la part de Dieu. Pour Timothée, on ne sait pas, ils ne sont pas listés. On pense qu'il avait probablement les dons suivants, l'enseignement, la prédication, probablement l'évangélisation et le leadership. Ça, c'est probablement les dons que lui avait. Mais notez, comment est-ce qu'il a reçu ces dons ? Par prophétie. Par prophétie. Alors, dans le cas précis de Timothée, c'est où son don spirituel lui avait été donné par prophétie. Un jour, lorsqu'il a été appelé au ministère publiquement, probablement dans Actes 16, une prophétie a été faite par révélation directe. À l'époque, le canon n'était pas encore clos. Il y avait des prophéties directes de la part de Dieu qui se faisaient. Et dans Timothée 1, 18, on avait déjà lu la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. Et donc, il a été par prophétie, quelqu'un a vu de la part de Dieu que cet homme était appelé au ministère, il a été vraiment amené au ministère de cette manière, une manière vraiment directe, qui est exactement la même manière que Paul a été et Barnabas ont été appelés au ministère dans Acte 13 et le verset 1, où nous apprenons ceci, il dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius, Cyrène, Manahène, etc. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est très intéressant. Ils ont été appelés par le Saint-Esprit et ensuite l'Église, ou du moins les leaders dans l'Église, leur ont imposé les mains. Alors, est-ce que Dieu appelle dans le ministère de la même manière encore aujourd'hui ? Nous ne pensons pas qu'il y a encore de la révélation directe de Dieu. Pourquoi pas ? Simplement parce que le canon est clos aujourd'hui. La parole de Dieu est complète. Donc, nous ne pensons pas qu'il y a besoin d'avoir aujourd'hui des révélations directes de la part de Dieu. Cependant, 1 Timothée 3:1 nous dit... Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il y a un désir, Dieu met le désir en quelqu'un, que ce soit d'être ancien ou peut-être ministère plein temps, ça c'est à déterminer. Mais ça commence avec un désir. Ça commence avec un désir. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les qualifications morales, qu'on a déjà vu dans le chapitre 3. Donc la personne doit vouloir aller dans le ministère, c'est un désir qui revient. Deuxièmement, elle doit être qualifiée, donc on regarde, on examine sa vie, on se dit « Ah bon, cette personne colle avec le portrait fait par le Seigneur, si elle ne colle pas, elle travaille ses domaines jusqu'à qu'elle colle. » Troisièmement, il doit y avoir confirmation par les anciens de l'Église. Et ça, c'est ce qu'on voit dans notre texte d'aujourd'hui. Dans 1 Timothée 4, ne néglige pas le don qui a été en toi, qui a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Donc, finalement, ce sont les anciens de l'Église qui reconnaissent l'appel de cette personne. Et il y a, d'une manière ou d'une autre, une confirmation par toute l'Église, comme nous avons vu pour les diacres dans Actes 6, toute l'Église a choisi quelque part ou a aidé dans le choix, d'une manière ou d'une autre, de ce ministre de Jésus-Christ. Et l'imposition des mains n'est qu'un geste symbolique qui accompagne la réception, quelque part, de ce don et l'appel au ministère. Moi, lorsque j'étais appelé au ministère, j'ai reçu l'ordination, ça se dit, ordination en anglais. J'étais ordonné au ministère, et là, tous les anciens de mon église locale à l'époque, à Los Angeles, eh bien, m'ont imposé les mains, ont prié pour moi, après, bien sûr, des années d'études, et aussi des années où ils ont pu examiner ma vie, et ils ont dit, voilà, John, on t'envoie, maintenant, on est avec toi, et ils ont prié pour moi, c'était un moment hyper fort, waouh. Et c'est vraiment génial parce qu'aujourd'hui, nous allons le faire dans quelques minutes pour notre nouvel ancien dans l'Église, Serge Couzoué, qui a été nommé par l'Église, élu par l'Église. Et dans notre règlement intérieur, j'aimerais simplement vous lire ce qu'on a fait. Une fois élu, l'ancien est officiellement consacré et instauré dans cet office lors d'un culte ordinaire par la prière de toute l'Église locale et l'imposition des mains du conseil d'anciens. Alors bien sûr, Serge ne va pas devenir un pasteur plein temps, parce qu'il a un travail, mais il devient ancien dans notre Église. Le contexte est clairement ancien ici, et donc nous voulons en tant qu'Église et en tant qu'ancien lui imposer les mains et vraiment le féliciter et vraiment prier pour lui, pour cette nouvelle fonction. Et aujourd'hui, on est trois anciens au lieu de Dieu, et je crois que José et moi, on est super contents d'avoir... Mais ça, on le fera dans quelques minutes, juste à la fin du message, d'accord ? Alors, je vais juste maintenant terminer rapidement ce message. Donc là, on est au point 9. Il confirme sa vocation. Numéro 10, un bon ministre de Jésus-Christ. Dixièmement, il est zélé pour son travail. Il est zélé pour son travail. Regardez verset 15. « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Ah, j'ai tellement ici. Écoute, sois zélé. Donne-toi à fond pour ton travail. C'est ce qu'il est en train de dire. Occupe-toi de ces choses. Littéralement, médite, pense, sois préoccupé toujours par ces choses. Alors, on a le droit de vacances, d'accord ? Mais globalement, tu es vraiment préoccupé par ces choses. Donne-toi tout entier. Littéralement, immerge-toi. Sois absorbé par ces choses. Plonge dans ces choses. Et que ce soit ta vie morale, ton enseignement, ton ministère, tu te donnes à fond pour ces choses. Et ce que je trouve très intéressant, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Vous ne trouvez pas ça intéressant, bien sûr, et ça c'est le 11e point. Le 11e point, il progresse dans sa foi. Oui, il se donne à fond, mais il n'est pas parfait. Souligne-le bien, je répète, il n'est pas parfait. Je répète, il n'est pas parfait. Il est qualifié sans être parfait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand il chute, quand il se trompe, quand il fait une gaffe, il le répare et confesse immédiatement. C'est tellement rapide que l'Église ne s'en aperçoit même pas. Alors bien sûr, il y a certains péchés disqualificateurs immédiatement, mais dans les choses régulières de la vie, il va faire des gaffes, il va peut-être dire un mot de travers, il va avoir une pensée en travers, il va peut-être faire un geste en travers. Ça arrive. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, je suis constamment en train de demander pardon à quelqu'un pour quelque chose. Parce qu'on fait des gaffes. Et donc, c'est intéressant, si l'Église doit voir le progrès régulier de ce serviteur de Dieu, ça prouve qu'il n'est pas parfait, mais il progresse. Il progresse. Et là, je crois que l'Église peut aider un serviteur à progresser en étant honnête avec lui. Il doit y avoir une honnêteté, une franchise, une ouverture. Là, j'ai vu ça. Est-ce qu'on pourrait travailler ça ? Clac, clac, clac. C'est super. Dans l'amour, dans l'humilité, de s'aider dans le progrès. C'est exactement ce que Paul a dit dans Philippiens 3, 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix et que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'étais saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Même l'apôtre Paul, le plus grand qui n'a jamais vécu, il progressait. D'accord ? Et ça mène au dernier point. Dernier point. Douzièmement, un bon ministre de Jésus-Christ ne tombe pas. Là, je dis, il ne tombe pas de manière, totale, d'accord ? Verset 16, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Alors, veille sur toi-même. Alors, veille sur ta vie. D'accord ? Et veille sur ton enseignement. Écoutez, si vous devez résumer la vie d'un ministre de Jésus-Christ, ça se résume à deux choses. Sa vie est en ordre et son enseignement est en ordre. C'est ce qu'il dit. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sa vie est en ordre, son enseignement est en ordre. Il est biblique. Persévère dans ces choses. Ça implique, ça ne va pas être facile. Niveau de ta vie, ça ne va pas être facile. Et niveau de ton enseignement, ça ne va pas être facile. Donc, il faut persévérer. Il faut persévérer. Continue. Car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alors, ça veut dire quoi ? Probablement, moi, je prends ça comme dans le contexte. Le contexte, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séducteurs. Apparemment, en veillant sur lui-même et sur son enseignement, en persévérant dans ces choses, il va se sauver lui-même de l'apostasie qui était en train d'arriver dans l'Église et va sauver ceux qui l'écoutent de l'apostasie. Si tu tiens bon dans ta vie et dans ton enseignement, tu ne vas pas apostasier, tu ne vas pas abandonner la foi, tu vas demeurer ferme et progresser. Et voilà ce qu'il devrait faire. Et ça, je pense, c'est la juste interprétation contextuelle à ce texte. Et là, mes amis, vous avez le portrait d'un bon ministre de Jésus-Christ. Alors, je pense qu'en appelant Serge à venir maintenant, il va venir super petit et super humble parce qu'il se dit « Dans quoi je me suis lancé aujourd'hui ?» D'accord ? Mais c'est trop tard, Serge. Alors, je vais inviter José à venir et je vais inviter Serge à venir. Et nous allons faire exactement ce que nous avons dit. Nous voulons remercier le Seigneur pour Serge, que vous avez, alors juste pour ceux qui ne savaient pas, les membres ont été consultés dans l'Église, il y a déjà des semaines et des semaines en arrière, pour parmi les membres évoquer ceux qui pensaient étaient dans l'Église qualifiés en tant que... Viens ici, mets-toi à côté de José. Entre toi et moi, on va te soutenir mon frère, d'accord ? D'accord. Donc l'Église ensuite a évoqué des noms, c'est des noms que José et moi qui étions déjà anciens, on avait déjà aussi pensé à Serge, donc c'était qu'une confirmation. Ensuite, il y a eu une période de 2 semaines où José, Serge et moi, nous avons été évalués vis-à-vis de ces critères par l'Église. Et donc, l'Église est invitée à venir nous parler, nous dire ce qu'il voulait par rapport à nous pour voir si on était qualifié ou disqualifié. Par la grâce de Dieu, personne n'est venu nous voir. Donc, ça veut dire qu'apparemment, les gens pensent qu'on est qualifié, est-ce que j'ose à peine le dire, mais on progresse énormément, d'accord ? Donc, ça, c'est bien. Et finalement, à l'Assemblée générale du 5 juin, l'Église a été appelée à voter. Pour nous trois, et nous avons les trois été votés en tant qu'anciens, et comme le dit nos statuts, eh bien, lors d'un culte public, eh bien, nous allons imposer les mains. Alors, José et moi, on ne va pas s'imposer les mains nous-mêmes, puisqu'on était déjà anciens, on va simplement imposer les mains à Serge comme nouvel ancien. Alors, on ne lui a pas demandé de donner son témoignage aujourd'hui, parce qu'il l'avait déjà fait à l'Assemblée Générale, et je pense qu'il est en fait enregistré, si je ne me trompe pas, ou du moins dans le PV que vous allez recevoir, dont vous entendrez son témoignage. Je crois qu'on va tout simplement procéder à la prière. D'accord ? Ça marche ? Écoutez, alors venez, on va se mettre l'autre là, et je vais demander à José en premier de prier. On va imposer nos mains sur Serge, comme le dit la Bible, et ensuite tu vas prier, et ensuite je vais prier, d'accord ?
Ok, ça marche.
Prie avec nous, d'accord ?
Oui, Père Céleste, c'est vraiment un moment particulier où nous sommes en fait tous confrontés à ta parole, Seigneur. Ta parole, comme nous venons de voir, qui est puissante, qui est exigeante, qui est sainte, qui nous interpelle, qui nous bouscule. Et Seigneur, eh ben, aujourd'hui, en effet, tu as choisi Serge comme nouvel ancien de notre Église, Seigneur. Et c'est vrai que c'est une grande joie de pouvoir affirmer, confirmer ce frère que tu as choisi, ce frère que nous avons vu progresser dans ton église, Seigneur, que nous avons vu en effet au niveau de l'enseignement s'affiner. Nous ne sommes pas parfaits, il n'est pas parfait, je ne suis pas parfait, Seigneur. Mais chacun d'entre nous, tu nous as choisi, Seigneur, et tu as marché avec nous, tu nous as fortifiés. Et vraiment, c'est ce que je te demande pour Serge. C'est vrai que cette charge peut sembler lourde, comme nous venons de l'apprendre encore dans ce message ce matin, Seigneur. Et pourtant, avec toi, Seigneur, quelle que soit la charge, elle devient légère. Et c'est vraiment, en fait, nouvelle marche que tu proposes à Serge, nouvelle responsabilité. Et vraiment, Seigneur, je te demande pour lui, pour sa femme, pour sa famille, Seigneur, vraiment de les aider, d'aider particulièrement Serge dans ce nouveau ministère, de le fortifier, de l'encourager. Et pas seulement toi, Seigneur, bien entendu, toute l'Église aussi, Seigneur, que nous soyons tous proches de Serge pour l'aider dans cette nouvelle tâche. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen.
Seigneur, j'aimerais aussi moi-même te remercier pour ce frère Serge. Seigneur, ça fait des années qu'on le connaît, qu'on le voit progresser dans sa foi, Seigneur, progresser dans sa vie, progresser doctrinalement aussi, Seigneur. Merci pour ce mariage que tu as permis entre lui et Céline. Seigneur, vraiment, tu as béni ce frère et tu as béni Céline de multiples manières. Et c'est évident pour nous tous. Et aujourd'hui, Seigneur, tu honores sa fidélité, son humilité, sa vie, Seigneur, en l'honorant en tant qu'ancien. C'est vrai que c'est une charge lourde. Nous avons vu des critères aujourd'hui qui nous dépassent un peu, Seigneur. Et je te remercie pour son humilité. Et je te remercie pour son progrès. Et je te remercie surtout qu'il vient nous renforcer et donner du renfort à José et moi en tant qu'anciens pour cette nouvelle Église, Seigneur. Nous te demandons de nous donner une unité totale entre nous trois, Seigneur. C'est la chose la plus importante, une unité doctrinale, morale, une unité en toutes choses. Je te prie aussi que l'Église prie pour nous régulièrement, Seigneur. Car nous ne pouvons qu'agir et avoir les pensées de Dieu si c'est vraiment Dieu qui nous imbibe à fond, Seigneur. Et je te prie que l'Église prie pour nous et que nous donne grande sagesse, Seigneur. Et je te remercie pour d'autres, un jour peut-être, qui deviendront anciens. Que tu les prépares maintenant, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Seigneur, la barre est claire. Tes exigences sont là, Seigneur. C'est quelque chose à la portée de tous. Aide-nous chacun et chacune à progresser dans notre foi pour être, Seigneur, une lumière dans cette Église et dans le monde. Merci encore pour cette charge d'ancien pour Serge. Bénis-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations, Serge. Bienvenue.